VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 en universel du lundi 15 avril 2019. Abdourahman Dia à la présentation, voici les titres. 7 militaires tchadiens ont été tués et 15 blessés lors d'une attaque de Boko Haram. Au Soudan, le Conseil militaire de transition assure que la décision de livrer ou non Omar el-Béchir à la CPI reviendra au prochain gouvernement. Un gigantesque incendie déclaré à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le président français Emmanuel Macron se rend sur place. Et en partie magazine, nous irons au Sénégal pour essayer de comprendre pourquoi beaucoup de Sénégalais ne font pas leur bilan de santé au moment où les AVC sont fréquents.
On a peut-être peur de se rendre compte qu'on a une maladie plus ou moins grave.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout de suite, le journal. Au Tchad, 7 soldats ont été tués, 15 blessés la nuit dernière dans la région du lac Tchad lors d'une attaque de Boko Haram. Selon le porte-parole de l'armée tchadienne, le groupe djihadiste a perdu 63 combattants. Le point avec Idriss Fall.
D'après le colonel Azem Bermandoa, porte-parole militaire, l'attaque a eu lieu dans la localité de Bouhama autour du lac Tchad et 63 terroristes ont été tués. Le ministre de la Défense Daoud Yahya Brahim et le chef d'état-major des armées Taher Erda ont été dépêchés sur les lieux pour évaluer la situation. Fin mars, 23 soldats tchadiens ont été tués dans l'attaque d'une autre base sur la rive nord-est du lac. Depuis juin 2018, au moins 7 attaques de Boko Haram ont eu lieu en territoire tchadien. La Fédération internationale des droits de l'homme s'est inquiétée de cette résurgence des attaques dans la région. Malgré la mise en place d'une force conjointe, la ville de Diffa, dans le sud-est du Niger, a été frappée le 10 avril. Au Cameroun, au moins 7 soldats ont été tués ce mois-ci dans l'extrême nord du pays.
L'ONU et l'Union africaine appellent à une mobilisation de tous pour avancer rapidement dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé début février concernant la Centrafrique. Le commissaire de la paix et la sécurité de l'Union africaine, Smaël Chergui, et le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, sont en visite en Centrafrique. Les deux hommes se sont rendus à Bambari, dans le centre du pays, théâtre de nombreux combats depuis le début de l'année. Une réunion du groupe international de soutien à la Centrafrique doit avoir lieu mercredi à Bangui. En RDC, l'ex-ministre de la Communication Lambert Mende, seul candidat au poste de gouverneur de la province de Sankuru, n'est toujours pas élu alors que le vote a eu lieu dans la plupart des 26 provinces. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a demandé au président de la Commission électorale de reporter l'élection. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à la presse le ministre de l'Intérieur par intérim, Basile Olongo, faisant allusion à des risques de troubles en cas d'élection de Lambert Mende. Mi-février, au moins une personne avait été tuée dans des affrontements entre la police et des manifestants qui demandaient le rejet de la candidature de Mende, membre du Front commun pour le Congo et porte-parole du gouvernement de 2008 à 2018. Au Soudan, des milliers de manifestants sont rassemblés depuis 10 jours devant le quartier général de l'armée pour maintenir la pression sur les militaires pour qu'ils instaurent un gouvernement civil. Les organisateurs de la contestation dénoncent une tentative de dispersion du sit-in. Morgan Guériec.
L'Association des professionnels soudanais n'a pas précisé l'identité des personnes qui ont essayé de disperser la foule. Mais des témoins ont indiqué que plusieurs véhicules de l'armée avaient encerclé le lieu où se tient le sit-in à Khartoum. La SPA, fer de lance de la contestation qui secoue le pays depuis le 19 décembre, a appelé les manifestants à se rassembler dans le secteur pour protéger la révolution et exhorter à nouveau le Conseil militaire de transition à transférer immédiatement le pouvoir à un gouvernement civil. La destitution jeudi par l'armée du président Omar el-Béchir après 30 ans à la tête du pays et les promesses du conseil militaire qui a pris le pouvoir n'ont pas dissuadé les manifestants. Selon des témoins, l'armée a déployé dimanche une banderole sur un mur de son QG, incitant les manifestants à ne pas s'approcher.
La décision de livrer ou non l'ancien président soudanais Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale qui souhaite le juger pour génocide au Darfour reviendra à un gouvernement élu. C'est ce qu'a déclaré ce lundi un représentant du Conseil militaire de transition, désormais au pouvoir au Soudan. En Libye, 11 jours après le début de leur offensive, les troupes du maréchal Haftar piétinent aux portes de Tripoli alors que le bilan des affrontements continue de s'alourdir. Le point avec Herman Ongbo.
D'après l'OMS, il y a eu 147 morts en 10 jours de combat, ce qui semble indiquer que les troupes du maréchal Khalifa Haftar rencontrent de la résistance. Pourtant, au début de l'offensive, des images de longues colonnes de véhicules armés flambant neufs ont été publiées par les services de presse du maréchal. Le Wall Street Journal a rapporté que l'Arabie Saoudite, où Khalifa Haftar s'était rendu, lui a promis des dizaines de millions de dollars. De son côté, Mohamed Ben Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi, s'est rendu au Caire pour des entretiens avec le président Abdel Fattah al-Sissi, qui a reçu dimanche le maréchal Haftar. Riyad et Abu Dhabi considèrent les frères musulmans comme une menace. L'armée nationale libyenne autoproclamée par le maréchal Haftar risque de ne pas pouvoir à elle seule l'emporter, même si les milices et les groupes armés de l'Ouest ne sont pas homogènes. Le maréchal Haftar a sous-estimé les puissantes brigades de Misrata et leur volonté d'en découdre avec l'homme fort de l'Est libyen.
Ivanka Trump, la conseillère et fille du président américain, a entamé son voyage dans deux pays africains, l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire. C'est pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin à travers le monde. Michel Joseph.
Première étape de ce déplacement, Addis Abeba, la fille et conseillère Trump, entend faire la promotion de sa Women's Global Development and Prosperity Initiative, un programme que son père a promulgué en février dernier.
Our goal is to reach 50 million women in developing.
Notre objectif est d'atteindre 50 millions de femmes dans les pays en développement d'ici 2025. Notre initiative coordonne les efforts déployés par l'ensemble du gouvernement fédéral et collabore avec les institutions d'autres pays et le secteur privé pour donner aux femmes les moyens de participer pleinement et librement dans les économies locales. Le président donne et continuera de donner la priorité à cette question dans les budgets actuels et futurs. Pour ce faire, un budget conséquent de 12 milliards de dollars jusqu'en 2025, Ivanka Trump a rencontré Sahla Work Zewde, la présidente éthiopienne, et a assisté à une cérémonie à la Holy Trinity Cathedral d'Addis Abeba, en hommage aux 157 personnes tuées dans le crash d'un avion d'Ethiopian Airlines le mois dernier. Comme son père, fan de Twitter, elle a partagé sur le site des images et vidéos de sa première journée à Addis Abeba.
Puis en Côte d'Ivoire, le groupe Magic System a entamé une tournée destinée à sensibiliser la jeunesse ivoirienne à la paix et à la réconciliation en vue de la présidentielle prévue en 2020. Cette opération, issue d'un partenariat signé le 2 mars entre Magic System et l'Union européenne, a débuté hier soir par un concert géant sur la place Inch'Allah de Kumasi, un quartier populaire d'Abidjan, en présence des ambassadeurs des 28 pays de l'Union européenne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, toute la charpente de Notre-Dame de Paris est en train de brûler dans un incendie qui est toujours en cours aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la cathédrale. Le président français Emmanuel Macron devrait se rendre sur place. Il a annulé une allocution prévue ce lundi soir en réponse aux Gilets jaunes. Pour sa part, Donald Trump a jugé terrible d'assister à l'impressionnant incendie ravageant ce lundi l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris. Le président américain conseille au secours français d'agir vite. C'est si terrible d'assister à ce gigantesque incendie à Notre-Dame de Paris. Peut-être faudrait-il utiliser des bombardiers d'eau pour l'éteindre. Il faut agir vite, a tweeté le président américain. Une enquête pour une nouvelle enquête plutôt pour séquestration a été ouverte en Italie contre le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini après une interdiction de débarquement de migrants. L'affaire porte sur les 47 migrants secourus le 19 janvier au large de la Libye par le navire de l'ONG allemande Sea-Watch qui ont finalement pu débarquer en Sicile le 31 janvier après un accord de répartition avec 7 autres pays. Les États-Unis ne veulent pas de retrait précipité d'Afghanistan, c'est ce qu'a affirmé ce lundi à Kaboul la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen, membre du comité de services armés au Sénat. En décembre, Donald Trump avait indiqué qu'il voulait retirer environ la moitié des 14 000 soldats américains du pays. Les États-Unis ont entamé cet été des discussions avec les talibans pour parvenir à une résolution du conflit. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Nani Talani qui nous présente la Minute Éco.
La Tanzanie a conclu avec la Banque mondiale un accord de 1,7 milliard de dollars constitué des prêts et des subventions à faible taux d'intérêt pour financer divers projets au cours de l'exercice 2019-2020. Environ 400 millions de dollars iront à l'éducation et 300 millions de dollars à un programme de réduction de la pauvreté. Le reste servira à financer divers projets d'infrastructures tels que les routes, l'eau, l'énergie, les technologies de l'information et de la communication. À partir du mois prochain, le gouvernement zimbabwéen prévoit d'indemniser à hauteur de 18 millions de dollars les fermiers blancs âgés expulsés de force au profit des fermiers noirs lors de la réforme agraire ordonnée par Robert Mugabe au début des années 2000. Ces expulsions, qui concernaient 4 000 sur 4500 agriculteurs blancs, étaient censées corriger les inégalités héritées de la colonisation britannique. Elles ont cependant plongé toute l'économie du Zimbabwe dans une crise catastrophique dont le pays ne s'est toujours pas remis. Terminons avec l'Égypte qui impose des droits d'importation temporaires de 15% sur les billettes de fer et de 25% sur les barres d'armature en acier pendant 180 jours à compter d'aujourd'hui. Selon le ministère égyptien des Finances, ces dispositions visent à protéger l'industrie nationale contre la concurrence déloyale. Ces mesures anti-dumping auraient aussi été prises en raison d'une offre excédentaire mondiale de billets résultant des restrictions à l'importation appliquées par les États-Unis.
Et on démarre cette page de sport avec vous, Eric Manirekiza. Eric, bonsoir.
Bonsoir Abdou et bonsoir à tous.
Golf, pour commencer, Tiger Woods s'est offert à 43 ans un 15e titre du Grand Chelem.
Woods est redevenu un maître. Le comeback du Tigre impressionne tout le monde, y compris les médecins du sport. Il s'agit d'une longévité exceptionnelle après une éclipse de 11 années. Son succès dans le Masters 2019, le 5e de sa carrière à Augusta, est déjà présenté comme l'un des plus grands exploits de l'histoire du golf, voire du sport, Abdo.
Et nous revenons sur le tirage au sort de la CAN 2019 effectué vendredi chez le pays hôte de la compétition, l'Égypte.
Il a débouché sur 6 groupes de 4 nations pour cette première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. La compétition démarre le 21 juin pour se terminer le 19 juillet. Les matchs auront lieu dans 6 stades du Caire et d'Alexandrie.
Il aura des duels passionnants.
Maroc, Côte d'Ivoire et Sénégal, Algérie seront les chocs du premier tour. L'Égypte jouera le match d'ouverture contre le Zimbabwe le 21 juin. Avec cette CAN remportée, dont 3 à domicile, l'Égypte sera aussi opposée à la RD Congo et à l'Ouganda dans le groupe A. Le Maroc de Hervé Renard retrouvera dès la phase de poule la Côte d'Ivoire comme en 2017 dans le groupe D, tandis que le Sénégal, qui rêve d'un premier sacre en plus de 17 ans après la finale malheureuse de 2002, croisera la route de l'Algérie dans le groupe C. A contrario, le Cameroun tenant du titre sera opposé au Ghana, au Bénin et à la Guinée-Bissau dans le groupe F. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour la phase à élimination directe.
Et puis, Coupe UEFA, on joue demain les quarts de retour de la Champions League.
Messi doit transpercer le plafond pour retrouver le toit de l'Europe. Bloqué au seuil des demi-finales depuis 2015, l'équipe de Lionel Messi reçoit Manchester United demain. le même mardi à 21h temps universel avec l'avantage acquis à l'aller 1-0 et l'espoir d'aller plus haut. L'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde, redoutant la puissance et la vitesse des mancuniers, reste vigilant après le précédent parisien 3-1, vous vous en rappelez très bien. Dans l'autre affiche, la force de la Juventus et l'assurance de Cristiano Ronaldo contre l'insouciance et le talent pour des jeunes de l'Ajax Amsterdam. L'aller un but partout a été superbe et le duel restait passionnant et incertain avant le choc de demain mardi à 21h à Turin.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Abdourahman Dia en votre compagnie. On passe au dossier du jour et on démarre par cette réunion du groupe international de soutien à la Centrafrique qui doit avoir lieu mercredi à Bangui. L'ONU et l'Union africaine appellent à une mobilisation de tous pour avancer rapidement dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé début février. De passage dans nos studios ici la semaine dernière, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est prononcé sur les difficultés dans la mise en œuvre de l'accord de Khartoum, mais également sur le désarmement.
Il faut absolument que la République centrafricaine soit un pays sans armes, que les armes vont être utilisées par les institutions qui sont chargées, comme le prévoit notre constitution. En tout cas, aujourd'hui, toutes les parties signataires se sont engagées à travailler dans ce sens-là. Nous avons déjà défini une stratégie pour ce processus de DDR. Nous avons réussi à mobiliser des ressources auprès de nos partenaires pour aller dans ce cadre de DDR. Aujourd'hui, nous avions mis en œuvre un programme pilote qui a bien fonctionné. Et il reste aujourd'hui, comme vous l'avez dit, en novembre dernier, nous avons lancé le grand DDR à l'ouest. Et ça, ce qui a bien fonctionné d'ailleurs, il reste que certaines zones de notre pays, que les groupes armés puissent transmettre la liste de leurs combattants pour que cela se poursuive dans les autres parties. Moi, j'ai confiance. Nous avons réussi à mobiliser avec tous les partenaires. Et je pense qu'avec la bonne volonté, cette opération finira par prendre fin.
La levée de l'embargo sur les armes, la restauration de la paix, la relance économique par l'apport des investissements étrangers sont autant de sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur.
Absolument. Absolument.
La question, Monsieur le Président, vos interlocuteurs ont-ils été sensibles à ces préoccupations lors de vos rencontres et entretiens au cours de votre visite ici à Washington?
Vous savez, nous devions reconstruire notre armée. Une armée professionnelle, républicaine, qui a la confiance de son peuple et qui travaille pour la protection de nos populations. Et cette armée, qui, avec l'Union européenne, qui nous aide à la reconstruire, et aussi la communauté internationale et certains partenaires, a besoin des moyens, y compris du matériel létal, pour sa mission. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faudrait qu'on puisse lever cette mesure d'embargo sur les forces armées centrafricaines pour nous permettre d'acquérir des moyens de leur mission. L'embargo qui était à un moment donné justifié, pour l'instant, en ce qui concerne les forces armées centrafricaines, ne l'est plus. Parce que nous sommes en train de travailler avec les partenaires, l'EITM en l'occurrence, qui est presque la fêtière de la restructuration de notre armée. Nous travaillons avec l'EITM et avec les autres partenaires pour reconstruire cette armée.
C'était le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, interrogé par Félix Yepassi Zembrou.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24h sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Soudan, des milliers de manifestants sont rassemblés depuis 10 jours devant l'état-major de l'armée pour maintenir la pression sur les militaires pour instaurer un gouvernement civil. Les organisateurs de la contestation dénoncent une tentative de dispersion du sit-in. Morgane Guirier, qu'a joint Mohamed Nagy, rédacteur en chef de Soudan Tribune à Paris.
n'ont pas le choix que d'obtenir la reddition de pouvoir, c'est-à-dire que les militaires rendent le pouvoir aux civils. Vous savez, ces gens-là n'ont pas encore pris goût au pouvoir, mais demain après demain, et ils ne vont plus jamais vouloir la rendre au peuple. Alors c'est pour ça que toutes les forces de l'opposition, surtout c'est la rue soudanaise, ils veulent à tout prix continuer à mettre la pression sur les militaires afin de rendre le pouvoir aux civils, d'autant plus que la communauté internationale aussi les soutient dans cette démarche. Et il y a aussi l'Union africaine, d'ailleurs, le Conseil de la paix et de la sécurité aujourd'hui, il a pris une décision comme quoi il a donné aux militaires un délai de 15 jours pour rendre le pouvoir aux civils. Donc, toutes les conditions là. Donc, je crois qu'ils ont raison de vouloir insister sur cette démarche.
Mais l'armée pourrait-elle s'en prendre aux manifestants ?
Elle pourra toujours. Les militaires qui ont dessus le général El-Bashir, ou ils l'ont fait parce que lui, il leur a donné de tirer sur des millions de protestants, des gens qui manifestaient, et où il disait qu'ils ont préféré l'arrêter et que de tirer sur les gens. Donc ils veulent refaire la même chose, soit.
Est-ce que le pays qui sort de 30 ans de régime autoritaire d'Omar El-Béchir est prêt pour l'instauration d'un gouvernement civil ? Ça demande une classe politique organisée.
L'opposition est tout à fait prête et apte à prendre les rênes de pouvoir actuellement au Soudan. Tous les rouages du pouvoir au Soudan sont infiltrés par les islamistes et les partisans du président Omar El-Béchir. Donc les forces politiques veulent prendre le pouvoir afin de petit à petit commencer à jeter les bases nécessaires pour un régime démocratique au Soudan et aussi à purger l'appareil administratif. On ne peut pas dire qu'on a fait la révolution tout en maintenant l'ancien régime au pouvoir.
C'était Mohamed Nagy, rédacteur en chef de Soudan Tribune à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Des cas de mort subite et de crise cardiaque sont de plus en plus notés au Sénégal. Beaucoup se posent la question de savoir si les Sénégalais ont la culture du check-up ou encore appelé bilan médical, une pratique sanitaire importante mais peu connue ou pratiquée au Sénégal. Reportage à Dakar, Seydina Abagay.
D'une démarche lente et nonchalante, Amara Badji arpente une ruelle aux alentours du stade de Demba Diop. Âgé de 78 ans, il ignore ce que veut dire un bilan de santé.
Non, je ne sais pas ce que c'est. Je n'en ai jamais entendu parler.
Après Sikap, un quartier populaire de Dakar, Cap sur Tulène, un autre quartier périphérique de Dakar, la capitale sénégalaise. Adiaya Sinfal est assise sur un banc public. Elle attend son bus. À la main, un sac en plastique contenant des légumes. Elle a déjà fait un check-up, mais il y a un hic, elle n'a pas fait le suivi.
J'ai une fois fait un bilan de santé, cela remonte à 5 ans. Je recommande à tout le monde de faire un bilan. En résumé, c'est un petit geste aux grands effets. C'est à travers le bilan qu'une maladie a été décelée, mais j'ai pas pu faire le suivi parce que j'avais peur. Je comprends l'attitude des Sénégalais qui ont peur de faire un check-up. Souvent, des maladies graves sont décelées, des maladies liées à la mort. Du coup, chacun se débine, personne ne veut aller faire un bilan. Psychologiquement, certains ne peuvent pas supporter cela.
De nombreux Sénégalais refusent de faire des bilans de santé, car souvent les résultats issus des check-ups signalent des maladies chroniques, ce qui crée la psychose chez les patients. Voilà pourquoi cette dame, sous couvert de l'anonymat, invite les médecins à rassurer et à sensibiliser.
Souvent, on a quelques appréhensions par rapport aux médecins, par rapport à tout ce qui tourne autour de la santé en général. On a peut-être peur de se rendre compte qu'on a une maladie plus ou moins grave. Je trouve que c'est quand même peut-être aux médecins eux-mêmes de rassurer leurs patients et de lui dire c'est pas comme si on allait forcément trouver quelque chose, et quand bien même on trouverait quelque chose, peut-être que ce serait
la porte ouverte à un traitement, à un accompagnement, à un suivi médical personnalisé.
L'objectif d'un bilan de santé est d'aider à maintenir une personne en bonne santé. Et même si on se sent en forme, il est judicieux de faire un point à intervalles réguliers sur son état physique pour que le médecin puisse rectifier certaines mauvaises pratiques et si nécessaire qu'il mette en place un traitement. À chaque âge, le corps subit des évolutions et transformations et un dispositif d'examen biologique suivi d'un contrôle des poids, tension, vue, audition et réflexes pourrait se rapprocher de l'idée d'une révision que l'on ferait pour son propre corps afin de rester en bonne santé. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le Burkina Faso lance officiellement sa campagne cotonnière 2019-2020. L'association interprofessionnelle du coton du Burkina a réuni, comme à l'accoutumée, l'ensemble des producteurs du pays pour expliquer les nouvelles mesures prises et la stratégie à suivre pour atteindre l'objectif de production cotonnière et relever le niveau du coton burkinabé. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Principal regroupement professionnel de sociétés cotonnières du Burkina et interlocuteur entre l'État et les acteurs de la filière coton, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina a annoncé des mesures pour encourager les producteurs et du même coup améliorer la production cette année. Le directeur général de la société burkinabé des fibres textiles, Wilfred Yamiogo.
Deux questions fondamentales que sont donc l'augmentation du prix d'achat du coton grain aux producteurs et la réduction du prix de cession des intrants ont trouvé une solution.
Le prix d'achat du coton grain est l'une des problématiques de la filière. Tous les efforts ont cependant été faits afin d'améliorer ce prix, assure le secrétaire général de l'association interprofessionnelle du coton, Ali Compaoré.
L'année dernière, nous avons acheté le coton à 250 francs, kilogramme de coton grain bord champ. Cette année, nous allons l'acheter à 265 francs. Donc c'est une augmentation de 15 francs par kilogramme donc, de coton grain.
Ces nouvelles dispositions ont été assez bien accueillies par les producteurs, à l'instar de Yacouba Koura, cotonculteur de la province du Gourma, à l'est du pays.
On peut dire en tout cas que les revendications ont eu gain de cause, parce que par rapport aux apurements des impayés, la filière coton a annoncé une contribution à hauteur de 4 milliards. Au niveau des prix des intrants, c'est vrai, il y a eu une légère baisse de 1000 francs par sac. Voir remercier le Burkina Faso par rapport à cet engagement-là.
Les soucis ayant conduit à la baisse de rendement, notamment le boycott de certains producteurs, sont-ils résorbés pour autant? Le secrétaire général de l'association interprofessionnelle du coton semble plutôt confiant, Ali Compaoré.
Tout ce qui se passe en termes de boycott, de contestation, c'est parce que de plus en plus, le producteur individuel n'a plus le revenu escompté. Et je crois que des mesures donc sont déclinées pour rassurer les gens que, en faisant du coton, ils devraient pouvoir, en tout cas, rentrer en possession de ce qu'on leur doit.
Les producteurs dont la dette interne a été apurée avec le soutien de l'État sont décidés à reprendre le travail. Ils pensent pouvoir atteindre, à l'image de Yacouba Koura, l'objectif de la campagne actuelle.
Bon, en tout cas, pour les 800 000 tonnes, les mesures qui sont faites vont nous permettre vraiment à relever les défis. Si vraiment la pluviométrie est au rendez-vous, on pense que ces objectifs peuvent être atteints.
Un objectif qui reste également tributaire de la sécurité, notamment dans la région de l'Est, grande pourvoyeuse de coton grain, afin de ramener le Burkina Faso, actuel quatrième producteur africain, à retrouver son leadership d'antan. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Firmé Max Koyaweda, à la console Nelson Lopes, à la présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.